Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Sébastien Lemay.
Bonjour à tous, appel sur l'actualité jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, comme chaque jour, le débat. RFI vous donne la parole pour discuter aujourd'hui de la Côte d'Ivoire et de la situation au sein du Front Populaire Ivoirien. Le FPI, premier parti d'opposition du pays. L'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, ne pourra finalement pas se présenter à la présidence du mouvement. Décision hier du tribunal d'Abidjan après une plainte de son adversaire Pascal Afinguessan. Rappelons-le, Laurent Gbagbo est emprisonné à La Haye devant la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité présumé. Il est dans l'attente de son procès. Alors que vous inspire cette décision de justice? Quelles conséquences pour le FPI et puis plus globalement pour la politique ivoirienne? Nous lançons le débat, rejoignez-nous au 33 9 693 693 70 ou 09 693 deux fois 70 si vous appelez de France. N'oubliez pas notre adresse mail appel@rfi.fr. Rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter, ça réagit beaucoup ce matin, près de 300 commentaires sur Facebook. Mais avant de lancer le débat, comme chaque jour, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité, avec un premier auditeur en ligne, Sédou, bonjour.
Bonjour Sébastien et bonjour à mes auditeurs.
Alors Sédou, vous êtes à Dakar au Sénégal et vous avez deux questions concernant la Tunisie avec l'élection du président Béji Caïd Essebsi.
J'ai écouté le discours de Mandzukic qui craint le retour d'un régime autoritaire. C'est pour cela que j'ai trois questions à poser. Première question, qui est vraiment ce nouveau président?
D'accord, on va répondre alors à celle-ci. Pour vous répondre avec nous, en direct dans le studio, David Thompson, du Service Afrique, ancien correspondant en Tunisie, auteur du livre « Les Français djihadistes » aux éditions Brochet, un très bon livre à offrir en fin d'année, à retrouver dans toutes les bonnes librairies. David, un petit portrait peut-être de BCE, comme on l'appelle, Béji Caïd Essebsi. On va peut-être pas remonter jusqu'à son enfance, mais bon, il est issu de la grande bourgeoisie, mais j'allais dire, s'il a 88 ans, c'est un vieux de la vieille, comme on dit, entre guillemets, hein, de la politique tunisienne.
Oui, Béji Caïd Essebsi, c'est un vieux routier de la politique tunisienne. Il est né en 1926. Il a commencé sa vie de militant à l'époque de la lutte pour l'indépendance du pays, à laquelle il a participé. C'est quelqu'un qui a également fait ses études en France, ses études de droit à Paris. Et ensuite, après l'indépendance, il reste dans l'entourage du père de l'indépendance, Habib Bourguiba, qui sera véritablement son mentor, qu'il est encore aujourd'hui. Dès 1965, il commence sa carrière de ministre dans un gouvernement de Bourguiba, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur également. Et c'est à cette époque qu'il participe à la répression d'une opposition de l'époque, les Youssefistes, comme on les appelle en Tunisie.
On lui reproche encore à cette époque.
On lui reproche absolument encore aujourd'hui cette répression des Youssefistes, donc une opposition à l'ex-président Bourguiba. Et puis, alors la grande question pour Béji Caïd Essebsi, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui est mouillé ou pas avec l'ancien régime? En Tunisie, beaucoup considèrent que, certes, c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui représente d'une certaine manière l'ancien régime, mais il a su partir assez tôt pour ne pas avoir les mains trop sales, entre guillemets, puisque c'est vrai, lorsque le président Ben Ali arrive au pouvoir, fait son coup d'état en 87, Béji Caïd Essebsi fait partie de la vie politique. Et peu de temps après, il accède, il devient député. Et ensuite, entre 90 et 91, il est président de l'Assemblée nationale sous Ben Ali. Mais, dit-il aujourd'hui, lorsqu'il sent que les choses commencent à tourner mal, il quitte la vie politique en 91 et il revient après la révolution en 2011 pour devenir premier ministre de transition. Il mène le pays vers ses premières élections libres qui sont gagnées en octobre 2011 par les islamistes d'Ennahda. Et là, il cède le pouvoir aux islamistes et il fonde son parti Ndiatouné, ce qui l'a mené vers la victoire en octobre des législatives et puis lui a permis de gagner cette élection présidentielle, la première de l'après Ben Ali.
Et Ndiatouné, qui est un peu un agrégat, il y a dedans des personnalités de gauche, des syndicalistes et aussi des membres de l'ex-parti de Zine El Abidine Ben Ali.
Oui. D'ailleurs, On attend de connaître le nom, la nomination de chacun des députés du parti Nida Tounes, mais on peut d'ores et déjà estimer qu'une bonne moitié de ces députés sont des gens qui étaient encartés avant la révolution au sein de Tajamand, comme l'appellent les Tunisiens, c'est-à-dire le RCD, le parti de Ben Ali. Mais le parti Nida Tounes ne se résume pas qu'à cela. C'est un parti qui, à sa création en juin 2012, a su agréger toutes les oppositions, toutes les détestations du parti islamiste Ennahda. C'est-à-dire qu'on retrouve chez Nida Tounes beaucoup de gens qui étaient effectivement de l'ancien régime tunisien, mais pas seulement. Il y a aussi des anciens syndicalistes. Il y a aussi Tayeb Bakouche, hein, dans l'organigramme des cadres du parti, c'est un ancien syndicaliste. Des gens de l'opposition de gauche, des gens qui ne sont pas tous des gens de l'ancien régime.
David Thompson, restez avec nous puisque Sédou a d'autres questions. Sédou vous écoute.
Oui, deuxième question, pourquoi Mandzouki craint-il le retour d'un régime autoritaire?
Oui, effectivement, c'était dans les discours, c'est même dans les arguments de campagne de Moncef Marzouki, qui était le président jusqu'à sa défaite, à ces élections présidentielles. David, est-ce qu'on peut vraiment craindre ce retour en régime autoritaire? Là, on fait référence à ce passé sous Bourguiba et sous Ben Ali de BCE, qu'on l'appelle. Est-ce qu'on peut vraiment craindre ce retour?
C'est vrai, dans la campagne, essentiellement d'ailleurs entre l'entre-deux-tours, Moncef Marzouki a axé tous ses arguments sur la peur du retour de l'ancien régime, la peur du retour de la dictature, et il n'a cessé de dire que ce retour de l'ancien régime était incarné par Beji Caid Sepsi. Que répond Beji Caid Sepsi à cela? Lui répond d'abord que il y a eu une révolution, que l'ancien régime ne pourra jamais revenir. Il condamne la répression systématique des islamistes qui a eu lieu sous Ben Ali. Et puis il dit finalement, l'ancien régime c'est quoi? Si l'ancien régime c'est Bourguiba, oui, je revendique cet héritage bourguibien, l'héritage moderniste, en assumant sa part aussi donc, puisque
d'autoritarisme.
Ouais. Si c'est l'ancien régime de Ben Ali, là, non. Moncef Marzouki, pour lui, c'était aussi une stratégie politique, hein, un positionnement politique d'axer sa campagne là-dessus. Ça lui permettait de fédérer tous les gens qui en Tunisie ont peur de ce retour de l'ancien régime, de la dictature, notamment tout l'électorat islamiste qui craint une répression à l'égyptienne. Au-delà de ça, pour Moncef Marzouki, finalement, ce n'est pas tant Beji Caid Sepsi qui inquiète, mais plutôt son entourage, qui est composé, c'est vrai, on l'a dit, d'anciens du régime, mais pas seulement. Mais c'est des gens qui n'ont pas toujours, dans l'histoire, fait montre d'un grand sens démocratique.
Merci beaucoup, David. Donc, salut Sédou, qui nous appelait depuis Dakar au Sénégal. 339-693-693-6210. Un nouvel éditeur en ligne avec nous, Ismaël, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Abidjan, Côte d'Ivoire. Vous avez également une série de questions concernant la Tunisie. On vous écoute.
Oui, oui. Ok. Bonjour Sébastien, bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale RFI. Alors, la première question, c'est comment expliquer le fait qu'il y a 3 ans de cela, le parti Ennahda remportait les élections législatives en Tunisie et aujourd'hui, ce même parti a été battu à l'élection présidentielle par les Nida Tounes, un parti anti-islamiste.
Alors effectivement, David, comment expliquer ce revirement, cette chute un petit peu dans les législatives du parti islamiste Ennahda? Il y a eu une désaffection au fil des ans, au fil de leur exercice du pouvoir?
Pour Ennahda, il y a eu une vraie usure au pouvoir. Ennahda aujourd'hui est face à un bilan qui est le sien. Après 3 ans de majorité à l'Assemblée nationale, 2 ans au gouvernement, les Tunisiens, pour beaucoup d'entre eux, retiennent essentiellement 2 choses au passif d'Ennahda. D'abord, le bilan sécuritaire. C'est vrai que c'est sous le parti islamiste Ennahda que le mouvement djihadiste tunisien s'est considérablement développé, s'est structuré. Et aujourd'hui, la conséquence de ce qui est considéré par l'opposition aujourd'hui, enfin en tout cas par les opposants à Ennahda, comme du laxisme vis-à-vis du mouvement djihadiste, c'est ce que personne n'a oublié en Tunisie, 2 assassinats politiques en 2013 qui ont été revendiqués par des djihadistes qui aujourd'hui ont rejoint l'État islamique en Syrie, et puis l'attaque de l'ambassade américaine, et puis 3000 ressortissants tunisiens qui aujourd'hui sont au djihad effectivement en Syrie et en Irak et qui font planer une menace sécuritaire, un péril sécuritaire très important à moyen terme sur le pays qui n'a pas forcément les moyens de répondre à ça puisque l'appareil sécuritaire tunisien est aujourd'hui très très déstructuré depuis la révolution. Deuxième chose, le bilan économique. Ennahda n'a pas su répondre à cette attente essentielle de la révolution, lutte contre le chômage des jeunes, même si le taux de chômage a baissé, c'est vrai, mais pas suffisamment. Il y a encore, notamment dans le sud du pays, des régions où le taux de chômage des jeunes frôle les 40%, notamment dans la région de Tataouine. Et puis, une croissance qui a pu artificiellement être relancée en 2012 à la faveur d'investissements publics très importants. Mais finalement, c'est le déficit public qui a été creusé. Et aujourd'hui, on est dans une situation où l'économie n'a pas vraiment été relancée. Et beaucoup pensent eh bien, que Nida Tounes est un parti qui a les cadres nécessaires, l'expérience nécessaire pour relancer le pays et pour répondre à cet enjeu sécuritaire.
Et ce seront d'ailleurs les deux défis hein, de la présidence Essebsi, la sécurité et l'économie. Ismaël, vous aviez une autre question.
Oui. La deuxième question, c'est quels sont les marges de manœuvre du président actuel Bézis Essebsi pour élire un premier ministre sachant qu'il ne dispose pas de la majorité absolue au Parlement?
Ah, David, c'est vrai qu'il n'a pas la majorité absolue. Hein. Nida Tounes, c'est 86 députés sur 217 sièges, 69 pour Ennahda. Est-ce que Essebsi peut composer sans le parti islamiste ou est-ce qu'il a besoin de discuter avec
Alors, c'est la grande question qui se pose actuellement et c'est une des craintes des militants de Nida Tounes qui voient la possibilité d'une alliance de gouvernement pour obtenir une majorité parlementaire avec Ennahda, qui voit ça d'un œil, d'un très mauvais œil, puisque c'est vrai que la plupart des militants, des partisans de Nida Tounes considèrent cela comme contre nature, puisque le ferment de ce parti, c'est l'anti-islamisme. Juste avant le second tour de la présidentielle, après avoir gagné les législatives en octobre, le parti Nida Tounes a annoncé qu'il n'aurait pas à passer par une alliance avec le parti islamiste et que il y a suffisamment de partis qui sont d'accord pour une alliance avec lui, des partis non islamistes, pour ne pas avoir à mener cette alliance contre nature avec Ennahda. Qui sont ces partis? On retrouve par exemple l'UPL, qui est un parti fondé par un milliardaire assez sulfureux qui a fait fortune à la faveur de ses liens avec le régime Kadhafi en Libye. On retrouve également Al-Mubadara qui est le parti qui a été fondé par le dernier ministre des Affaires étrangères de Ben Ali, Kamel Morjane. Et puis on retrouve tout un tas d'indépendants. L'alliance avec les islamistes n'est pas totalement exclue pour le moment. Les discussions sont en cours hein, pour former ce gouvernement. Donc ce n'est pas totalement exclu, mais pour l'instant on ne peut pas se prononcer avec certitude puisque c'est en cours de négociation.
Merci beaucoup David Thompson d'être venu nous voir et nous parler longuement de la Tunisie. On salue Ismaël qui nous appelait depuis Abidjan. On le remercie pour ses questions. 339 693 693 70 09 693 2 x 70. Si vous appelez de France, nous sommes en ligne avec Souleymane. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes à Dano, dans le sud-ouest du Burkina Faso. Vous avez une question concernant le discours de Noël du pape François.
C'est bien ça. J'aimerais savoir comment s'expliquent les tensions entre le pape et le gouvernement du Vatican. Et je voudrais aussi qu'on nous dise quelle est la répartition des pouvoirs entre le pape et son gouvernement.
Pour vous répondre, en ligne avec nous, Antoine-Marie Zohar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant au Vatican. C'est vrai que dans ce discours de Noël, on va le dire, le pape François est pas allé avec le dos de la cuillère, avec la curie. Il a listé 15 maladies dont serait atteint cette curie. Vraiment, il a été très très critique. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà, peut-être un peu de pédagogie pour commencer, comment ça s'organise les pouvoirs entre le pape, la curie déjà, c'est quoi? C'est l'administration en fait du Vatican, est-ce qu'on peut résumer comme ça?
Alors la curie, c'est le gouvernement, si vous voulez, c'est-à-dire que vous avez la partie administration, secrétariat d'État, et puis toute la question des dicastères, c'est-à-dire des ministères. Alors évidemment, quand dans un pays comme la France ou ailleurs, ça peut être la défense, l'économie ou la santé, ici ça sera plutôt les communications sociales, les réponses au courrier du pape, ou encore le clergé, les prêtres, les évêques, enfin voilà. Juste un petit mot quand même par rapport à cette fameuse liste de longue liste de maladies que le pape a fait.
Alzheimer spirituel, fossilisation mentale et spirituelle, cœur de pierre, schizophrénie existentielle, voilà, il est pas allé de main morte. Hein.
Ce que je voulais dire par là très rapidement, c'est que c'est pas tant la liste qui est étonnante pour les gens qui vivent ici, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes. Alors il faut pas non plus noircir le tableau, on n'est pas face à un monde de monstres, loin de là. En revanche, ce qui pose question, c'est le fait que le pape publiquement établit cette liste. Voilà, ça c'est assez surprenant. Et ça révèle, et Souleymane posait la question à l'instant, hein, ça révèle les tensions qu'il y a dans la curie romaine, et surtout ça les met sous un jour nouveau.
Mais qu'est-ce qu'on reproche à cette curie romaine? On dit souvent qu'elle est déconnectée un peu des réalités du monde catholique aujourd'hui.
Bah, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les hommes et les femmes, mais surtout les hommes, et quasiment que les hommes, qui sont à la tête des dicastères de la curie romaine, s'habituent au gouvernement de l'Église, ils sont tranquilles dans leurs appartements, plutôt confortables. Je dis pas luxueux, parce que il n'y a pas de véritable luxe, il n'y a pas de véritable dépense excessive, encore que certaines voitures, avant le pontificat de François, laissaient un peu à désirer, mais ça s'est un peu calmé avec l'exemple venu d'en haut par le pape François, mais en fin de compte, les tensions, elles sont dues au fait que plusieurs responsables de dicastères, je vous l'ai dit, les ministères, ne sont toujours pas confirmés aujourd'hui dans leur fonction définitivement, et puis que on est quand même bientôt 2 ans après l'élection de François, et que la réforme de la curie romaine qui est en cours, elle n'aboutit pas. Hein. On pensait que le pape aurait réformé l'appareil du gouvernement de l'Église d'ici le mois de février cette année, et il a annoncé avant Noël qu'il ne fallait pas s'attendre à une réforme avant 2016. Donc ça décourage un peu les uns et les autres, et puis il faudra se méfier, le pape doit se méfier hein, du revers de la médaille, parce qu'après avoir publiquement fait la leçon aux évêques et aux cardinaux de la curie, personne ici ne l'épargnera désormais s'il trébuche.
Souleymane, vous aviez une autre question concernant le contenu du discours du pape.
Oui, le pape a dénoncé l'action de l'État islamique contre les communautés religieuses catholiques, c'est tout. Et quelle peut être la portée politique au plan international du message du pape contre ces extrémistes?
Alors, Antoine-Marie Zohar, il nous reste une bonne minute trente. Il n'a pas, si je me trompe pas, cité nommément l'État islamique. Il a dit « Nos frères et sœurs d'Irak et de Syrie souffrent des effets du conflit en cours et subissent une persécution brutale ». Bon, c'était une référence quand même claire hein, à l'État islamique. L'État islamique, quelle portée peut avoir ces propos?
Alors vous l'avez dit, hein, le pape n'a jamais nommé le groupe État islamique dans ses appels ou ses discours nombreux à propos des persécutions que vivent les chrétiens et d'autres minorités. On parle souvent aussi des yézidis ici au Vatican, une petite minorité, religieuse en Irak et en Irak essentiellement. Il parle le plus fréquemment de persécutions inhumaines et violentes, mais en Turquie, à la fin du mois de novembre, il avait assuré devant le responsable d'affaires religieuses de ce pays musulman à 98%, eh bien que ces violences étaient causées, je cite, par un groupe extrémiste et fondamentaliste. Donc effectivement, le pape l'a redit aussi dans une lettre aux chrétiens d'Orient très récemment, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté sur les responsables de ces violences. Alors maintenant, pour répondre à la question de Souleymane, il faut être franc, depuis Rome, c'est difficile de vous dire quelle est la portée des propos du pape dans le monde musulman. Ce que je sais en revanche, c'est que le pape a tenu à faire la distinction à plusieurs reprises entre les fondamentalistes et le véritable islam. D'ailleurs, dans l'avion qui le ramenait de Turquie il y a un mois, avec nous les journalistes, il a pu nous dire combien le Coran était à ses yeux, ce sont ses propos, un livre prophétique de paix, et en même temps, il faut que tout le monde ait bien ça en tête, le pape a demandé une condamnation claire du terrorisme par tous les leaders musulmans, qu'ils soient responsables politiques, religieux ou universitaires. Donc s'il y avait une réponse à donner à Souleymane, la portée, ça peut être la réaction de certains, d'une intelligentsia musulmane à travers le monde, de certains imams, de certains responsables religieux, pour condamner les violences de l'État islamique, pour dire voilà, ça n'est pas le Coran, ça n'est pas le véritable islam, et c'est ce que veut le pape, avant de condamner les personnes, les actes terroristes, ou plutôt les terroristes même plutôt que les actes. Et donc le pape veut que l'on dise clairement ce qui est religieux, ce qui ne l'est pas. Et ça pourrait être la portée du discours du pape. D'ailleurs, pour terminer là-dessus, sachez que l'université Al-Azhar, qui est au Caire, importante, très importante institution musulmane, a condamné clairement les actes terroristes. Et donc, c'est un pas en avant, quoi.
Merci beaucoup Antoine-Marie Zohar, correspondant de RFI au Vatican. Merci à Souleymane de nous avoir appelé depuis Dano, dans le sud-ouest du Burkina. Restez avec nous, on marque une courte pause, le journal, et dans 10 minutes, le débat consacré aujourd'hui à la guerre interne au sein du FPI, le premier parti d'opposition en Côte d'Ivoire.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture.